Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Christophe Baratier. Bonjour Christophe Baratier, merci d'avoir accepté mon invitation. L'événement, l'événement, c'est la sortie du Temps des secrets de Christophe Baratier. Voilà, une ode à la Provence de Pagnols. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est un événement de vous avoir, toujours un plaisir, surtout vous qui connaissez bien notre presqu'île. Et, et ce film est aussi un événement. Alors, avant de revenir, parce qu'on ne va pas dire les choses en l'air, je vais dire pourquoi j'ai vraiment aimé ce film, pourquoi il est bouleversant. Ouais. Mais d'abord, pourquoi Pagnols, pourquoi ce choix à un moment de votre carrière? Voilà.
Mais en fait, ça remonte à quelque chose qui revient à loin. C'est que ma grand-mère maternelle, qui m'a élevé en partie, puisque mes parents étaient comédiens, sans cesse en tournée sur les routes, ma grand-mère était une comédienne de théâtre qui avait une jolie carrière avant-guerre, notamment en jouant beaucoup de Pagnols et Guitry, enfin tout ce qu'on jouait à l'époque. Et ses murs étaient constellés de photos avec Rému, il y avait Fernandel, il y avait Charpin, il y avait toute la bande pagnolesque. Et je dois dire que quand il y avait un film de Pagnols à la télévision, c'était le couvre-feu. Hein. Guitry, pareil, il fallait regarder. Et puis elle m'a fait découvrir, en me lisant soir, les souvenirs d'enfance, donc le château de ma mère et la gloire de mon père. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup marqué, mais c'était, bon, on dit le gros cliché, c'est Madeleine de Proust, mais ça vient beaucoup plus loin parce que c'est pas la Madeleine que ça me rappelle. C'était vraiment ma grand-mère qui me disait ces histoires et je pensais même que la vie se passerait avec ma grand-mère qui me raconterait des histoires le soir pour m'endormir. Bon, la vie en a décidé autrement et la nature aussi, mais Hélène Cazes, la productrice, est venue en me proposant ça, j'avoue que je me suis dit, oh là là, mais c'est quand même un peu une responsabilité parce que d'abord, je suis pas plus provençal qu'Yves Robert, hein, Yves Robert était aussi parisien que moi, mais je me suis dit quand même, c'est appartient vraiment à la Provence et tout, mais je me suis dit au-delà, finalement, non. Faut pas garder, je pense, Pagnols dans le folklore du sud de la France. Je pense que, bien sûr que c'est très typique, mais il a marqué tellement de spectateurs, non seulement en France, mais partout dans le monde, qu'il y a bien quelque chose qui va au-delà de ce simple régionalisme. Et je pense que d'accord, c'est un régionalisme auquel toutes les régions peuvent s'identifier, et pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Pourquoi ? Parce que, en fait, il nous raconte des choses très simples. Il nous raconte des choses très simples, et surtout, tout part toujours d'un détail. Vous savez, avec Pagnols, il n'y a pas de grand drame, il n'y a pas de grande trahison, il n'y a pas de catastrophe. C'est toujours, il n'y a pas de police. On est toujours dans la campagne avec des choses qui sont des détails comme une source qui ne donne plus d'eau, un olivier qui appartient au champ du voisin, un figuier qui ne donne plus de fruits, une mule qui ne veut pas avancer ou un outil qu'on ne trouve pas. Et donc, par conséquent, tout ça, ce sont des petites choses dont il se sert pour dire des choses profondes sur la vie, mais tout en ne le disant pas. Parce que Pagnols n'est pas un donneur de leçons, en fait. Ces personnages, il ne les psychologise pas, il ne les décrit pas ce qu'ils sont, il décrit ce qu'ils font. Et à partir de là, chacun peut en tirer des leçons, et surtout, c'est un auteur qui a la modestie de se mettre à notre hauteur à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas complexé par Pagnols. Et on n'est pas complexé parce que tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un quincailler, tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un outil, ce que c'est une fourche, ce que c'est une fosse, ce que c'est qu'une cheminée. Et c'est tout simplement de ces détails qu'on a tous les yeux devant la vie quotidienne. C'est ça qui est beau, c'est que tout ce qu'on a, nous, encore sous les yeux, il sait en faire quelque chose pour nous raconter une histoire.
Oui, mais vous savez, vous évoquez l'universalité de Pagnols qui incarne la langue française, le français, la France. Vous allez dans le monde entier, dans ce qu'on appelait à l'époque les missions françaises, c'est-à-dire les lycées français, centres culturels. Ouais. Ils ont tous appris Pagnols.
Oui, on a tous appris Pagnols. C'est la base. Bien sûr. Ben, faut dire aussi qu'il avait sans doute, il a hérité de ce sens pédagogique de son père, hein, qui était un instituteur. D'ailleurs, on peut le dire, un instituteur qui était à l'époque symbolique de quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la laïcité, parce qu'en plus, l'action se passe en 1905, et on le sait, le père de Pagnols était ce qu'on appelait de ces hussards noirs de la République. Vous savez, ces instituteurs qui étaient contre, évidemment, l'enchaînement religieux, d'où 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc, évidemment, un père qui est sur ces valeurs républicaines très fortes, et d'ailleurs, c'est assez savoureux dans le film, puisque il passe ses vacances avec l'oncle Jules, dont on se souvient, qui est, contrairement à lui, un bon vivant, parce que le père Pagnols, lui, c'était un ascète, il ne buvait pas une goutte d'alcool. L'oncle Jules était un très bon vivant, quelqu'un avec une faconde très régionaliste, mais qui, en même temps, lui, était un bigot. Donc, il y a toutes ces joutes verbales à propos de la religion qu'on retrouve dans le film et qui faisaient j'allais dire, à la fois les conversations et la saveur des petites joutes verbales à table lors de chaque dîner des vacances de Pagnol. Et c'est ça que, en donnant d'ailleurs ce rôle, le rôle de Joseph à François, le rôle de Joseph à Guillaume de Tonquédec, on a un acteur, bizarrement, ça se ressemble un peu dans la vie, qui vient du milieu très académique du Conservatoire d'art dramatique de Paris, et d'autre côté, un acteur qui s'est fait tout seul sur les scènes en One Man Show, qui est François Xavier. Donc, il y a aussi ce rapport-là, existait aussi dans la vie avec les acteurs.
Ce qui est intéressant aussi, moi, c'est ce que je retiens aussi, c'est qu'à cette époque-là, il pouvait y avoir des conflits dans une famille, et il y avait une sagesse. Une sagesse d'écouter l'autre, de le respecter, de le contredire, bien entendu.
Mais la langue,
la culture permettait d'étaler des arguments et des contre-arguments. Aujourd'hui, on nous dit, il y a la polémique, je vais prendre un exemple récent, vaccinés, non vaccinés, il ne faut pas les mettre autour d'une table parce qu'ils vont s'entretuer au bout de 5 secondes. On n'a plus ça. Vous voyez ce
que je crois que malgré tout, si on regarde bien, on doit l'avoir encore. Mais c'est vrai que par rapport, en revanche, à... parce que Pagnol, faire attention. Il faut, si on est attentif, ce n'est pas tout le temps non plus que gentil. C'est-à-dire que, notamment, il y a toujours un truc récurrent chez Pagnol, un trait de caractère, et d'ailleurs que j'ai un peu musclé par rapport au récit, parce que dans le récit même du Temps des Secrets, il n'est un peu qu'effleuré. Mais il y a toujours un moment, et ça je me suis servi un petit peu dans l'œuvre de Pagnol, avec l'accord de Nicolas Pagnol, l'ayant droit, c'est-à-dire toujours un moment où le personnage principal, comme on dit un peu dans le midi, prend le melon, Et se croit un peu supérieur aux autres et commence à les rabaisser. Par exemple, il y a ça dans le Spoons, vous vous souvenez, où Fernandel, qui travaille à l'épicerie de son oncle, tout à coup, on lui fait croire qu'il va devenir un acteur de cinéma à Hollywood, comme il dit, à Hollywood, et il commence à mépriser son oncle en lui disant « Tu crois pas que je vais quand même travailler, je suis fait pour une star, moi, tu crois pas que je vais m'abaisser toute la vie à servir Madame Machin et Sarico qu'elle me discute le prix ? Non, je suis fait pour une autre carrière. » Et crois-moi, ton épicerie, je pourrais non seulement la racheter, mais même si tu veux, je te rachèterais Félix Potin pour ton Noël. Et si tu ne veux pas de Félix Potin, je le jetterais, Félix Potin. Et donc, je me suis servi de ça parce qu'à un moment dans le film, sans dévoiler trop de choses, mais le petit Léo Campion qui joue Marcel rencontre la petite Isabelle de Montmajour qui est, paraît-il, il y a un petit suspense là-dessus, paraît-il une noble très riche. Et quand il revient finalement le soir chez lui, après avoir vu un château avec des œuvres d'art splendides où l'on joue du piano, où l'on cite des grands poètes, tout à coup, il dit à ses parents, vous voulez pas que je m'émancipe, vous voulez que je sois comme vous toute ma vie, que je sois comme papa à réparer des commodes pourries, à discuter le prix des abricots. Et en plus, la petite Isabelle, elle n'a pas besoin d'une bourse, elle, pour aller manger à la cantine. Et là, tout à coup, il devient, on peut dire, odieux d'une certaine façon, avant, évidemment, que la vie elle-même et que les événements lui donnent une bonne claque et le ramènent finalement dans le droit chemin de la sagesse. Donc, il y a toujours un moment chez Pagnol où il y a cette fracture un peu qui repose d'ailleurs sur un côté un peu condescendant. Et même si on regarde bien, j'allais dire qu'il y a un côté un peu lutte des classes, c'est-à-dire un petit peu les citadins contre les ruraux, le savoir contre l'instinct. Et Pagnol lui fait en sorte que c'est toujours la sagesse qui revient remettre les choses en ordre. D'ailleurs, on se souvient de cette jolie phrase dans La fille du puisatier où la fille de Rému tombe amoureuse du fils des calcaillés, qui sont les riches du village, et que Rému lui dit d'un son « Méfie-toi des gens qui vendent des outils mais qui ne s'en servent pas ».
Ce qu'il y a aussi, ce que je retiens aussi, Christophe Baratier, c'est que l'histoire, le conte qui est raconté, pourrait se passer au XXIe siècle, parce qu'on retrouve, on pourrait faire la même chose, cette jalousie dans le couple, tu as regardé la boulangère, mais non, il se passe rien, le petit garçon qui a envie, l'autre famille qui arrive, qui se croit, et en fait, on s'aperçoit après que c'est du bidon, tout est transposable.
Tout est transposable, oui, parce que ça nous arrive encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut distinguer qu'il y a encore un certain mépris de classe, malgré tout, qui arrive entre les citadins, on a bien vu, sans vouloir faire trop d'actualité, de parallèle, mais un petit peu cette condescendance que certains Parisiens ou citadins ont eu vis-à-vis des gilets jaunes qui campaient sur les ronds-points. Je pense que les petites affaires, c'est vrai que chez Pagnol, il y a toujours un moment où, d'ailleurs, pas que les garçons, mais les filles aussi, font un petit pas de côté vers certaines petites infidélités. C'est jamais très grave, ce sont jamais des grandes trahisons, mais c'est des...
C'est
les pas de côté, c'est le petit pas qu'on fait à côté. On se rend compte que parfois c'était une erreur, parfois ça l'est pas. Mais en tout cas, c'est la vie universelle. Et puis sincèrement, je pense que moi j'ai vu ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire qu'on a tourné, nous avons vraiment tourné dans les collines d'Aubagne exactement les mêmes, en prenant les mêmes sentiers, en voyant les mêmes paysages, quasiment, enfin, sauf Marseille qui a un peu changé, mais quand on est en dessous du Garlaban, rien n'a changé, les sentiers sont parfaitement réservés. Je peux vous dire que le petit Léo Campion qui incarne Marcel et le petit Baptiste Négrel qui incarne Lily des Belons, il y en a un qui vient de la ville, l'autre qui vient de la campagne, ça n'a rien changé. Le petit Daubagne, le petit Baptiste Négrel, il connaît tellement les collines que, vous savez, si il se perdait, il se perdra pas, mais si jamais il voulait rester 8 jours à se cacher dans les collines, il trouverait de quoi manger et de quoi boire. Alors que nous, les Parisiens, on mourrait de soif au bout de 3 heures. Hein. Donc, c'est aussi, tout ça n'a pas changé. Et puis, il suffisait de leur mettre des bâtons et les laisser courir dans la garrigue. Je peux vous dire qu'ils n'avaient plus jamais envie de regarder une tablette de la journée. Hein. Ça, c'est sûr aussi.
Là où vous avez été vraiment un sportif de haut niveau, Christophe Baratier, un équilibriste, c'est que faire ce que vous avez fait, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un voulait refaire, par exemple, je vais citer des chefs-d'œuvre du cinéma, La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, ou bien, par exemple, Hôtel du Nord, ou Les Visiteurs du Soir, ou Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. On a tellement dans nos mémoires, dans notre ADN culturel, ces grands acteurs, pour Pagnol, c'est Rému, Fernandez, etc., qu'on se dit ça va forcément pas être bien. Donc là où l'exercice était très difficile, et quand on ressort dans la salle, on se dit c'est différent, il n'y a aucune trahison. Aucune trahison.
C'est d'autant plus. Je dirais pas avec prudence, faut jamais être trop prudent, faut prendre des risques, mais faut être précautionneux. C'est que là, pour une fois, en plus, on incarne pas un personnage de fiction, parce que Marius est un personnage de fiction, par exemple, mais on incarne Pagnol lui-même. Donc, même pour les ayants droit, Nicolas Pagnol, qui gère les droits et la mémoire de son grand-père, j'avoue que c'est pas comme si tout à fait on refaisait le fils du Puisatier. On réincarne son grand-père. Donc, par conséquent, c'est vrai que là, on est obligé de suivre un chemin qui est le plus fidèle possible, tout en réservant quand même quelques surprises. Et c'est pour ça que Nicolas m'a bien compris quand je lui dis que dans Le Temps des Secrets, qui est charmant à lire, mais il y avait des choses qui étaient pour aujourd'hui un tout petit peu lisses et sans aspérité. Par exemple, et ça il a parfaitement compris, je voulais que non seulement les enfants du film, comme c'est leur âge, sont pré-ados, commencent à distribuer leurs petites histoires, faire des arrangements avec la réalité, en gros mentir un peu quand c'est nécessaire, eh bien on se rend compte que non seulement les enfants le font, mais que les adultes, malgré leurs injonctions de ne pas mentir, de bien se conduire tout le temps, d'être transparents, eh bien eux aussi ne sont pas totalement irréprochables de ce côté-là, et ont chacun leur petit secret. Et j'avoue que par exemple, le cas le plus flagrant est sans doute la mère de Pagnol, incarnée ici par Mélanie Doutet, Augustine, qui est décrite évidemment comme une mère absolument formidable, aimante, on mange au chaud, on mange à l'heure, elle nous couvre quand il fait froid, elle nous donne de l'eau quand il fait chaud, bref, elle trouve toujours des arrangements avec tout le monde. Autant c'est une mère, j'allais dire, idéale dans la vie, autant à l'écran ça pouvait manquer un peu d'aspérité. Et ben elle aussi, je me suis aperçu que une des tantes de Pagnol s'occupait d'une société un peu secrète du droit des femmes, pour limiter contre le droit des femmes, qui était encore évidemment très balbutiant à l'époque. Eh bien, tout simplement, je pense que je me dis qu'Augustine, après avoir élevé 3 beaux enfants, en ayant le sens, peut-être, elle était de santé très fragile, d'une certaine précarité de sa vie, et peut-être ayant remarqué aussi que son mari commence à regarder d'autres femmes, elle s'engage secrètement dans cette lutte. Elle s'engage pour cette cause, pour le droit des femmes, qui est une cause très noble et que d'ailleurs son mari soutiendra quand il la découvrira, contrairement à d'autres. Et bien, tout ça, ça nous permet de d'enrichir des personnages, mais c'est pas de les enrichir parce qu'ils sont pauvres, c'est simplement de me servir un peu comme dans un herbier, de 3 petites choses qui étaient dans l'œuvre de Pagnol disséminées et que j'ai simplement, donc pas du tout créé ex nihilo, elles existaient, mais que j'ai simplement, sur lesquelles j'ai simplement un petit peu apporté de l'eau pour les faire pousser et les intégrer dans le temps des secrets qui est devenu ainsi un petit peu plus complexe qu'il n'était. Parce qu'autant il y a des choses très belles littérairement quand on les lit, mais elles manquent de dramaturgie quand on les met à l'écran. Et heureusement, j'ai eu avec Nicolas Pagnol une très grande confiance de ce côté-là, parce qu'il savait qu'au fond, ça servait l'œuvre de son grand-père, ça la complexifiait, ça donnait des choses peut-être un petit peu plus riches encore qu'on pouvait le penser.
À un moment, Mélanie Doutet est admirable à un moment dans son visage, dans son expression. Vous auriez, à un moment, il y a des gros plans d'elle quand elle ne parle pas. Vous auriez fait ça en noir et blanc. C'était presque Arletty. Voilà, vous nous avez
plus. Ah oui, merci. Oui, oui, c'est vrai. Il y a notamment un très joli passage, justement, quand elle vient de surprendre son mari qui a une petite attirance pour cette espèce de boulangère de village qui est une boulangère, je vais dire, certes, accorte, certes, peut-être un petit peu attirante, mais malgré tout, qui ne représente pas... Oui, c'est sûr qu'il n'y aura pas une histoire d'amour entre eux, mais elle se sent blessée quand même, malgré tout. Et puis, elle se regarde dans la glace et se met un chapeau pour essayer de se demander si elle est encore désirable. Et ça, ce sont des scènes muettes que Mélanie incarne avec infiniment de grâce et de subtilité. Oui.
Ce film, quand je suis sorti, je me suis dit, c'est des millions d'entrées dans le monde entier parce que c'est film français. C'est le film français, que vous soyez arabe, juif, indien, peu importe, à l'autre bout du monde, américain, vous êtes touché.
Oui, bien sûr, mais ça, vous savez, c'est...
Vous voyez ce que je veux dire,
des millions d'entrées, alors, je veux dire, Dieu vous entende s'il y a un Dieu, et que les exploitants vous entendent s'il y a Dieu des exploitants, tant mieux, j'espère. En tout cas, on est au premier jour de la sortie, je crois qu'on peut le dire que nous avons fait une très très belle première semaine dans cette sortie anticipée, puisque le film est sorti une semaine avant la sortie nationale, est sorti une semaine avant dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, où certes, il y avait évidemment un attachement très particulier de Pagnol, mais on a réalisé, beaucoup de spectateurs sont venus, y compris même dans des petites salles parfois de petites villes, et qui ont fait vraiment des scores assez étonnants par rapport à l'habitude. Mais je crois que dans Pagnol, il y avait aussi cette leçon-là. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'était encore pire que maintenant. Maintenant, même un Marseillais vous dirait, quand on est de Marseille du Vieux-Port, on n'est pas de Marseille du 13e arrondissement. Et évidemment, à l'époque, on disait aussi, quand on est de Daubagne, on n'est pas de la commune d'à côté qui est à l'eau. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Eh bien, ça aussi chez Pagnol, parce que faut pas oublier que dans ces collines, d'ailleurs, on le voit très bien dans le film Manon, il y avait beaucoup de gens qui venaient du Piémont, de régions pauvres d'Italie. Il y avait à Marseille, il y avait parce que des Provençaux de souche, il y avait des Corses, c'est déjà très exotique, qui parlaient même pas le provençal. Et il y avait, après, c'était le début d'une immigration d'Afrique du Nord. Eh bien, tous ces gens-là, finalement, ont formé, d'une certaine façon, Marseille et la Provence, mais au début, ils se reniflaient un peu en disant, vous savez, moi j'ai entendu pardonnez-moi pour la grossièreté du mot, mais des engueulades dans des cafés où on me dit que le pastis à Marseille, c'est pas le même qu'à Aubagne, et que le Mistral, ils sont plus forts dans leur ville, et que les olives, elles sont bien plus belles à Port-Saint-Louis qu'elles le sont à Martigues. Enfin voilà, il y a des querelles nationalistes qui heureusement ne vont pas plus loin qu'un certain folklore et des joutes verbales dont les Marseillais d'ailleurs sont très vibrants. Vous savez, les Marseillais, ils parlent 5 fois plus fort qu'à Paris, hein, qu'on parle à Paris. Donc, à chaque fois, on a l'impression qu'on nous fait engueuler. En fait, c'est une manière de nous dire bonjour avec politesse. Voilà.
En fait, ça.
Ils acceptent les Parisiens, sauf qu'il y a une limite. Vous devez la deviner, à laquelle il faut quand même pas dépasser. C'est, je pense pas qu'il faudrait se promener sur la Canebière avec un maillot du PSG. Ça, c'est le seul truc. Le seul truc qu'il faut vraiment pas faire, et je suis sérieux en plus.
Oui. Ouais, vous faites vous évoquez ces petites frontières, mais vous savez, chez nous aussi, c'est pareil. Vous êtes de Pornichet, vous n'êtes pas de la Baule. On vient vous expliquer que vous êtes au Croisic, ça n'a rien à voir avec Gironde. C'est pareil.
Oui,
partout,
oui. Hein, et je ne vais pas se lancer de savoir si la Baule est en Bretagne ou en Vendée. Ça, évidemment, on va pas se lancer là-dessus, parce que là, j'ai parfois, vous savez, ça m'amuse quand je suis à la Baule de lancer le débat. Parce que c'est moi qui le lance, mais ce sont les autres qui s'affrontent après. J'allume la mèche et puis généralement ça prend bien feu. Donc là-bas aussi, c'est à peu près la même chose. Hein. Je vais même vous dire, quand vous êtes, on a tourné dans une petite, on a trouvé le village du film, parce que les villages de Pagnol aujourd'hui, par exemple, c'est à Bastide, la vraie Bastide, elle est à La Treille maintenant, elle fait donc partie de Marseille. C'est plus un village, maintenant ça a été rattaché à Marseille, elle n'a plus aucun intérêt. Donc les villages même ont changé, on a trouvé un village parfaitement, quasiment qui est resté dans son jus du début 20e à Grandbois dans le Vaucluse. Eh bien, je peux vous dire que quand on allait s'adresser au monsieur qui louait le garage pour qu'on fasse la boulangerie, il nous a dit 3 fois qu'il fallait surtout pas parler au voisin, parce que il y a 70 ans, son voisin avait vendu un âne à son grand-père qui boitait. Enfin, on était reparti dans les querelles. De toute façon, on a très bien vu qu'il y avait 10 personnes qui se voient tous les jours, qui prennent le verre, mais qui se détestent, et ils ne se gênent pas pour nous le dire. Donc, en fait, on était rentrés dans Pagnol à peine qu'on avait tourné mis les pieds sur les places du village, qu'on était déjà dans les problèmes de voisinage et de jalousie qui remontaient à des décennies. Voilà, donc ça, on va très vite à revoir tout ça.
Ah, vous savez que... Aussi, votre film, Christophe Baratier, je ne soupçonne pas que ça soit du marketing, voilà, vous arrivez au bon moment, est réellement dans l'air du temps intellectuel de notre pays. On nous parle de consommer local, les jeunes, on vous leur parlait du métaverse, oui, ils disent c'est bien, mais rien ne vaut la balade en barque au soleil, au printemps, voilà ce qu'on vous répond. On a envie de se replonger dans tout cela, dans ces traditions. Moi, je vois des jeunes de 20 ans, des jeunes de 15 ans, qui écoutent Michel Delpech et France Gall, et des jeunes d'autres de 35 ans qui ne savent pas qui c'est.
Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas sûr de parce qu'on me stigmatise parfois comme étant nostalgique, invétéré. Moi, ce n'est pas tellement, en fait, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas tellement le retour.
Je n'ai pas parlé de nostalgie. Hein.
Non, mais à la France d'avant. Mais je veux dire, c'est vrai que, en revanche, s'il y a une chose dont j'ai nostalgie, et je pense que Pagnol l'avait aussi, puisqu'il a écrit ses souvenirs d'enfance, c'est la nostalgie de mon enfance. C'est vrai que certainement, moi, je vous ai parlé de ma grand-mère, plus je vieillis, j'ai 50 et quelques années, plus je repense à elle, et plus je pense à ses joies d'enfant, et plus j'en suis nostalgique, parce que la vie est à la fois quelque chose de formidable, je vais toujours de l'avant, mais en même temps, il est vrai que de temps en temps, quand on commence à avoir l'âge de ses parents, puis on se dirige vers l'âge de ses grands-parents, on se dit qu'il faut surtout pas laisser passer ces petites choses de la vie que nous avions. Vous savez, dans Pagnol, on le voit très bien quand on est enfant, on est innocent. Après adolescence, on commence à être un peu plus fourbe. Dans les 20 ans, les 30 ans, on se prend au sérieux. Et puis après, plus on vieillit, moins normalement, on se déleste le sérieux pour revenir finalement à des choses, à prendre les choses avec plus de légèreté. Quand je dis de la légèreté, c'est de la sagesse. C'est cette légèreté que Pagnol nous apprend. Même dans ses films dramatiques, il nous apprend que, avec l'âge, vous savez, je recite La fille du Puisatier, mais Rému, renie sa fille et même la bannit parce qu'elle a eu un enfant comme une fille mère. Et tout d'un coup, quand il voit son petit-fils, il craque et il le reprend à la maison. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est derrière le cœur dur qu'on s'impose. Tout d'un coup, avec l'âge, on s'aperçoit que, allez, soyons un peu tolérants les uns envers les autres. Chacun a fait des erreurs et tout. Et la plus grande force d'autorité, la plus grande preuve d'autorité, c'est de savoir pardonner. C'est certainement pas de punir. Donc, Pagnol nous apprend tout ça, effectivement.
J'ai une dernière question, Christophe Baratier, ouais. Une question personnelle. À la fin du film, on voit Marcel Pagnol, adulte, qui revient sur ses traces et qui s'amuse à sauter dans l'eau. Et moi, ça m'a rappelé, quand je vais sur une plage où j'étais dans mon enfance avec les vagues, je veux replonger dans les mêmes vagues où j'étais inconscient. Ça vous est arrivé aussi, vous, ça ?
Bah oui, et je pense que je ne suis pas le seul, mais il faut en être conscient, parce que, comme vous dites, c'est la fin, on ne va pas le décrire précisément pour que les spectateurs en aient la surprise, mais il y a des choses que, on le voit à un moment avec ses flaques d'eau dans le film, petit Marcel, il dit « Oh non, je ne veux pas faire comme toi ». Son petit copain lui dit sauter dans la flaque, il dit « Non, je ne veux pas faire comme toi parce que c'est couillon ». Eh bien, tout d'un coup, il se dit que des années après, finalement, ce jour-là, c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est vrai que, moi aussi, c'est pareil, on le fait un peu quand on est tout seul, mais on a une petite manie, vous parliez des vagues, c'est une très bonne image. Et où c'est comme tout simplement des petits gestes qu'on faisait étant enfant, on se retrouve tout seul et on a envie de refaire les mêmes choses. Et je pense que dans le film, Pagnol lui-même d'ailleurs se dit, ce petit Lily que j'ai connu, en plus il est mort à la guerre des années après, et ce jour-là, il voulait que je fasse ce petit jeu avec lui, et je l'ai un peu méprisé en lui disant c'est couillon de faire ça. Et d'un coup, quand il se retrouve face à ces mêmes flaques, 50 ans plus tard, il le fait quasiment parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'aurais dû le faire avec lui ce jour-là. C'est une image très juste que m'avait donnée, c'est exactement ce sentiment que nous avons tous ressenti parfois à un certain âge, c'est de reprendre exactement le geste que nous avions en étant enfant. Ça dure peut-être 15 secondes, mais c'est ça qui nous rapproche de notre enfance et au fond qui nous permet peut-être, j'espère, d'être davantage en paix avec nous-mêmes.
Eh bien, merci Christophe Baratier de nous avoir parlé de votre nouveau film en salle en ce moment. Le temps des secrets de Christophe Baratier, une ode à la Provence de Pagnol. à voir absolument parce que non pas parce que Christophe Baratier est notre chouchou localement puisqu'il préside le festival de cinéma et musique de film de la Baule, mais à voir parce que c'est le film français par définition, celui que l'on aime, celui qui nous replonge dans des émotions, les drames de cette petite vie quotidienne, et sont des drames pour nous, à notre échelon, la jalousie, l'envie, le premier baiser, l'amour, enfin tout cela, et c'est fait, et c'est projeté avec tendresse, voilà, c'est fait avec tendresse, c'est un magnifique film, voilà, Le temps des secrets de Christophe Baratier.